D'abord, pour que ce soit, que ça reste en débat, je voudrais dire que certaines propositions ne rentrent pas dans le cadre. Ce qu'on a dit sur la sortie des énergies carbonées, certaines des propositions qu'on a entendues, ne rentrent pas dans le cadre actuel. Donc il faut quand même se prononcer sur ce cadre actuel. Par exemple, la sortie des énergies carbonées, ça ne colle pas avec le traité de Lisbonne, la concurrence libre et non faussée. Donc on ne peut pas vouloir les deux à la fois. De la même manière, la sortie des énergies carbonées, est-ce que la bonne méthode, c'est le marché carbone? Bon, moi, je suis contre. Voilà, donc il faut aussi se prononcer sur ces choses-là, parce que le reste, au niveau des bonnes intentions, moi, je suis absolument persuadé que tout le monde en est rempli. Mais à un moment donné, il y a le rapport de force à établir pour changer la règle du jeu. Là, on va atteindre sur le sujet qu'il y a là, qui est passionnant, mais dont on ne doit pas nier qu'il se place sur une frontière extrêmement sensible. Le point 4 que vous évoquez à juste titre, la conscience de soi et la liberté individuelle, c'est pas une petite question. Et on peut pas imaginer un mode de règlement de la vie en société où il y aurait une police des mœurs, là et des mœurs écolo, comme ailleurs, il y a une police des mœurs tout court. Hein. En tout cas, moi, ça, non. Je sais pas quelle est la faveur qu'a cette idée ici, mais moi, c'est non. La liberté individuelle doit être totale, voilà. Et les êtres humains sont confrontés en permanence à leur responsabilité collective. Mais là, il y a un principe d'auto-organisation qui joue. C'est pourquoi je ne crois pas du tout à tout ce qui est action par la culpabilisation. Pour ma part, j'y crois pas. Hein. Et même, je la trouve révoltante. Quand je vois des campagnes où on dit « le tabac ceci, le tabac cela, il y a ceci dedans », ben, alors si c'est si dangereux, on l'interdit. Parce que c'est mauvais pour la santé publique, il y a un intérêt général qui est en cause, et donc l'intérêt général s'impose, point. Ça, on peut en discuter, on peut convaincre tout le monde en disant, mais attendez, telle ou telle pratique conduit à un désastre collectif, comme on est en train de le faire à propos de la discussion que nous avons sur les énergies carbonées. Bon. Donc je dis quand même, attention, la question de la liberté individuelle ne peut pas être traitée à la va comme je te pousse, soit par la culpabilisation, soit par des méthodes législatives, inquisitoriales, même si il faudra en passer par des décisions qui sont contraignantes. Et la loi est toujours entrée dans les familles. Bon, dans le huis clos familial, la loi continue à s'exercer. Par exemple, il est interdit de battre son conjoint. Voilà, ben c'est la loi est rentrée dans la maison et elle décide d'une chose qui jusqu'à présent était considérée comme relevant de l'intime. Donc on peut le faire à condition qu'on s'adosse sur un intérêt général clairement expliqué et consenti. Et consenti parce que c'est la loi et parce qu'on en a débattu. Donc on ne peut pas dissocier cette question de la démocratie. Maintenant, je viens vite sur les trucs plus techniques et plus précis. D'abord, tournons pas trop vite la page. Je suis d'accord, j'ai compris le message, quand vous dites on ne va pas tout régler miraculeusement par les gains qui seront faits dans la production, les progrès qu'on fait dans la production. J'ai entendu que vous le relativisiez, mais vous en admettez la pertinence. Moi, je continue à dire le simple fait de produire autrement est une pédagogie collective. Voilà. Quand la personne est conduite à s'interroger sur l'acte professionnel qu'elle pose et sa compatibilité à une vision plus globale de l'intérêt général écologique, déjà, c'est un acte d'éducation. C'est le premier élément. Deuxième élément, il y a des bons énormes de techniques à faire. Et moi, je dis à notre ami du modèle, moi, je ne crois pas que ça sera à somme nulle à la fin. Je crois que la conversion du modèle économique et d'échange fait un bond d'activité. Je n'ai pas dit de croissance, un bond d'activité qui génère des millions d'emplois. Voilà. Si on prenait simplement la question de l'habitat, d'accord ? Oui, mais je ne dis pas à la fin, ça sera 50-50. Non, parce que la relocalisation, en particulier la relocalisation. On va prendre l'exemple qu'on a donné de l'habitat, de la mutation de l'habitat. Quand, par exemple, on opine pour... On pourrait en France faire ça, décider. Nous sommes le premier massif forestier d'Europe. Hein, on est les premiers importateurs de meubles et d'objets finis en bois. Pourquoi ? Parce que tout le reste de la filière s'est écroulé sous le coup de la concurrence libre et non faussée, et ainsi de suite. Le rétablissement de cette filière de A jusqu'à Z, ça veut dire une réoccupation du massif forestier dans d'autres conditions. Nécessairement, c'est de l'emploi local. Nécessairement, c'est des productions qui peuvent être localisées. Et ainsi de suite, la filière bois, c'est un tout. Ça représente des dizaines de milliers d'emplois et une réoccupation du territoire qui en fait une modification complète. Donc,
Pardon ? Rendez-vous au stand, tout va bien.
D'accord, d'accord. Donc, si j'ai pointé ça, c'est pour dire voilà quelle est la contribution de la production au changement des modes de consommation. Les personnes qui produisent différemment pensent leur futur et leur environnement différemment. Après, le reste, c'est plus facile. La question immédiate de l'obsolescence, que tout le monde relève et constate dans sa propre vie, pour peu qu'on ait un peu l'âge d'avoir comparé la durée des produits. Moi, je suis en état, compte tenu de mon âge, de comparer le temps que durait un frigo quand je l'ai acheté, et puis maintenant, quoi. Hein. Donc, ça serait que c'est facile, parce que c'est une affaire de garantie. Là, vous avez la force de la loi. Pof, si on décide que les productions, la garantie, c'est 3 ans, 4 ans, 5 ans, content, pas content, c'est obligé de le faire. Sinon, vous avez des milliers de gens qui reviennent en disant, tiens, c'est cassé au bout de 2 ans, et c'est à vous de vous débrouiller pour le remplacer. Donc, ça, c'est facile. Par contre, ce qui est beaucoup plus difficile, c'est le problème que vous soulevez, celui de la révolution des mentalités. Et c'est là qu'on touche du doigt le fond de l'affaire. C'est qu'on ne peut pas rompre avec le système simplement du haut et administrativement. On est obligé de rompre avec le système par une révolution culturelle. Et ça, on ne peut pas faire l'économie de ça. Bon, la publicité est maintenant tellement entrée dans notre peau, elle est tellement normalisante à l'échelon national, mais mondial, quiconque compare les magazines féminins d'un bout à l'autre de la planète est confronté à la pression qui s'exerce, qui est à l'uniformisation et donc aux productions de masse. Par conséquent, la bataille contre la publicité, la révolution culturelle qui va avec, celle que vous appelez, où vous dites, quand c'est un vieux débat de la philosophie de classe de terminale, hein, l'être et le paraître, bon, c'est clair que la consommation est devenue le mode d'existence. Moi, je suis complètement d'accord avec vous, parce que les gens pensent leur relation entre eux sur ce modèle consumériste. Pour autant, comment peut-on faire ? Moi, je ne suis pas d'accord quand on dit si on traite le thème de la décroissance, on entre dans une impasse qui va nous confronter à toute la société. Ce n'est pas vrai. La décroissance est un mot au but qui oblige à réfléchir. Quand les gens du MEDEF disent « ça pose un problème à nos industries », je pense qu'ils mentent. Ça dépend auxquelles industries. Parce qu'en effet, certaines pratiques doivent décroître. Et elles devront décroître. Et nous serons obligés de contraindre à la décroissance dans le domaine, tandis que d'autres activités devront croître. En tout cas, moi, c'est comme ça que je me représente les choses. Ils ne veulent pas. Le capitalisme vert n'existe pas. Pour une raison très simple, le renouveau d'investissement, c'est-à-dire de capital mort, que nécessite la transition à un autre mode de production, est incompatible avec les niveaux de profitabilité qui sont exigés par le capital financier de notre époque. Quand vous exigez 10 à 12% de profitabilité d'un capital, vous ne pouvez pas en même temps renouveler le capital mort. La preuve, on le voit tous les jours sous nos yeux. C'est pourquoi la critique marxiste de l'économie capitaliste garde toute son efficacité pour penser l'écologie politique. Ce n'est pas deux choses contradictoires. Vous pouvez le voir tous les jours quand vous observez de quelle façon les fonds de placement viennent se positionner et parasiter un certain nombre de services publics qui sont privatisés, et il n'y reste que le temps du renouvellement du matériel qui s'y trouve. Quand c'est amorti, au revoir tout le monde, ils se sauvent. Y compris des autoroutes qui ne sont pas pour nous un modèle de ce que nous souhaitons dans l'économie écologisée, si je peux employer cette formule. Voilà, donc, pour illustrer par... ouais, j'ai défini. Bon, je veux quand même dire un mot, parce que ça ne m'a pas plu, qu'on passe si vite là-dessus. Moi, je veux bien, mais il y a aussi un certain nombre de bonnes trouvailles qui n'en sont pas. Je veux bien qu'on parle du véhicule électrique comme d'accord, mais on produit comment l'électricité qui va avec ? Parce que si vous mettez 1,5 million de bagnoles de plus électriques, il vous faut une centrale nucléaire de plus, ou autre chose. Bon. Et c'est de cette autre chose, bon, alors moi, vous connaissez ma marotte, peut-être, depuis le temps que... Moi, je crois qu'il y a des énergies renouvelables hyper abondantes, hyper accessibles, faciles à mettre en place et réalisables par les Français. C'est la géothermie profonde et l'énergie mécanique de la mer. Et je dis à tous ceux des patrons avec qui je discute, puisque tu parlais tout à l'heure du modèle mondial. Bon, c'est clair, où les Français, qui ont une certaine avance technologique dans des tas de domaines, arrivent et disent, écoutez, on vous propose une centrale nucléaire, grâce à quoi vous allez arrêter de déforester, nani nana. Les gens, ils sont là, c'est ça ou rien. Ou si vous arrivez et vous dites, nous sommes capables de vous installer, ou de vous vendre la technique qui permet d'installer dans un pays 200, 300, 400... centrale d'énergie de géothermie profonde ou sur votre littoral, nous on a le deuxième territoire maritime du monde, alors on n'est pas gêné hein, pour faire ça, eh bien moi je suis sûr qu'ils seront preneurs, et donc il y a une espèce d'effet d'essaimage de la technologie. Donc nous avons intérêt à être en tête. Et donc ça pose la question qu'a soulevé Eva, moi je suis complètement d'accord avec elle, l'autonomie et l'indépendance de la recherche, le refus de l'allier... Mais alors ça, les amis, il va falloir rompre avec un tas de baratins. Les universités autonomes, où les mandarins décident entre eux, liées à la recherche locale et blablabla bla 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 pour être technique et très performant dans le classement de Shanghai, et toutes ces sornettes qu'on entend tout le monde, doublées du déclinisme absolu, en France rien ne va, rien ne marche, on se demande pourquoi on a autant de prix Nobel en mathématiques et dans les autres domaines. Donc je mets en garde, attention, vous ne pouvez pas tirer un fil d'un côté puis espérer que ça va continuer le reste du temps, parce que je connais quelques écolos extrêmement bien branchés à l'université, mais qui ne veulent pas entendre parler du fait qu'on touche à leur sacro-saint mandarina, leur sainte indépendance de, et autonomie de leur chère université, en lien avec le patronat local. Je le dis juste pour créer de l'ambiance.
Bah, visiblement, c'est réussi. Bravo.